La reine blessée.
Le carreau de velours rouge sur lequel la reine Isabelle posait ses pieds étroits était usé jusqu'à la trame. Les glands d'or aux quatre coins étaient ternis. Les lys de France et les lions d'Angleterre brodés sur le tissu s'effilochaient. Mais à quoi bon changer de coussin, en commander un autre, puisque le neuf aussitôt qu'apparu passerait sous les souliers brodés de perles de Hugh le Despenser, l'amant du roi. La reine regardait ce vieux coussin qui avait traîné sur le pavement de tous les châteaux du royaume, une saison en Dorset, une autre en Norfolk, l'hiver dans le Warwick et cet été en Yorkshire, sans qu'on demeurât jamais plus de 3 jours à la même place. Le 1er août, voici moins d'une semaine, la cour était à Cowick. Hier, on s'était arrêté à Esrick. Aujourd'hui, on campait plutôt qu'on ne logeait au prieuré de Kirkham. Après-demain, on repartirait pour Lockton, pour Pickering. Les quelques tapisseries poussiéreuses, la vaisselle bosselée, les robes fatiguées qui constituaient l'équipement de voyage de la reine Isabelle seraient à nouveau tassées dans les meubles coffres. On démontrait le lit à courtine pour le remonter ailleurs, ce lit si fatigué d'avoir été trop transporté qu'il menaçait de s'écrouler, et où la reine faisait dormir avec elle parfois sa dame de parage, Lady Jeanne Mortimer, et parfois son fils aîné, le prince Édouard, par crainte, si elle restait seule, d'être assassinée. Les Despenser n'oseraient tout de même pas la poignarder sous les yeux du prince héritier. Et la promenade reprenait à travers le royaume, ses campagnes vertes et ses châteaux tristes. Édouard II voulait se faire connaître de ses moindres vassaux. Il imaginait leur rendre honneur en descendant chez eux et s'acquérir par quelques paroles amicales leur fidélité contre les Écossais ou contre le parti gallois. En vérité, il eût gagné à moins se montrer. Un désordre veut l'accompagner ses pas. Sa légèreté pour parler des affaires du gouvernement, qu'il pensait être une attitude de détachement souverain, heurtait fort les seigneurs, abbés et notables, venus lui exposer les problèmes locaux. L'intimité qu'il affichait avec son tout-puissant chambellan dont il caressait la main en plein conseil ou pendant la messe, ses rires aigus, les libéralités dont bénéficiait soudain un petit clerc ou un jeune palefrenier éberlué, confirmaient les récits scandaleux qui circulaient jusqu'au fond des provinces, où les maris trompaient leurs épouses, tout comme ailleurs, certes, mais avec des femmes. Et ce qui se chuchotait avant sa venue se disait à voix haute après qu'il fût passé. Et il suffisait que ce bel homme à barbe blonde mais à l'âme molle apparût couronnant tête pour que s'effondrât tout le prestige de la majesté royale. Et les courtisans avides qui l'entouraient achevaient de le faire haïr. Inutile, impuissante, la reine assistait à cette ambulante déchéance. Des sentiments contraires la divisaient. D'une part, sa nature vraiment royale, marquée par l'atavisme capétien, s'irritait, s'indignait, souffrait de cette dégradation continue de l'autorité souveraine. Mais en même temps, l'épouse lésée, blessée, menacée, se réjouissait secrètement à chaque nouvel ennemi que se créait le roi. Elle ne comprenait pas qu'elle eût pu aimer naguère ou se forcer à aimer un être à ce point méprisable, et qui la traitait de façon si odieuse. Pourquoi l'obligeait-on de participer à ses voyages? Pourquoi la montrait-on reine bafouée à tout le royaume? Le roi et son favori pensaient-ils duper personne et donner à leur liaison un aspect innocent du fait de sa présence? Ou bien voulait-il la garder sous surveillance? Comme elle eût préféré demeurer à Londres ou à Windsor, ou même dans l'un des châteaux dont on lui avait théoriquement fait don, pour y attendre un retour du sort ou simplement la vieillesse. Et comme elle regrettait surtout que Thomas de Lancastre et Roger Mortimer de Wigmore, ces grands barons vraiment hommes, n'aient pas l'autre année réussi leur révolte.